les podcasts d'AFDS.TV, aux frontières des séries. Une émission de Sarah Sepulcre et Alexandre Marlier. Les dossiers d'AFDS.TV, Sarah Sepulcre, Lise Marie Cassard.
Après Dr. Kildar et avant Les oiseaux se cachent pour mourir, Richard Chamberlain est allé au Japon. Shogun, tout le monde connaît de nom. Lise Marie a approfondi cette histoire de samouraï. Bonjour Lizzie.
Bonjour Sarah.
Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pas un souvenir impérissable.
Non, j'ai pas vraiment accroché en fait.
Bon, ça c'était pour annoncer la couleur tout de suite,
oui.
Mais on va quand même un petit peu parler de la série d'abord.
Oui, parce qu'il y a quand même des points positifs et il faut quand même que je vous mette dans le bain parce que l'histoire est assez complexe et c'est mieux que je vous l'explique quand même. Je parlerai un peu des différences culturelles qui sont assez importants dans la série et qui est un des points assez intéressants quand même. Et le côté historique de la série est l'autre point intéressant.
C'est une série qui date de certains temps, donc c'est peut-être pas inintéressant que tu nous réexpliques un peu cette histoire.
C'est un feuilleton d'aventure qui est diffusé sur la NBC en 1980. Donc c'est une série quand même plus lente. C'est un rythme auquel on n'est plus vraiment habitué actuellement. Faut pas du tout le comparer aux séries actuelles. La série est une adaptation du roman de James Clavell et les scénarios sont de l'auteur et d'Eric Bercovici. Les acteurs principaux sont Richard Chamberlain dans le rôle de Jack Blackthorne, Toshiro Mifune dans celui de Toranaga et Yoko Shimada dans le rôle de Mariko, la traductrice de Toranaga. L'histoire se déroule à la fin du XVIe siècle. 5 navires de commerce et de combat quittent la cité hollandaise de Rotterdam. Leur but est de piller et ravager les possessions espagnoles et portugaises du Nouveau Monde. La Hollande protestante et l'Espagne catholique sont en guerre depuis 40 ans. L'Angleterre est l'alliée de la Hollande. Donc ça, c'est pour un peu mettre...
Le contexte historique,
mais c'est pas fini. Donc un seul navire hollandais arrive dans les eaux américaines. C'est le navire commandé par Jack Blackthorne, qui est un navigateur britannique sur un navire hollandais. Lors d'une tempête en mer, le bateau dérive sur les côtes japonaises. À cette époque, il faut savoir que le Japon est écrasé par le pouvoir des missionnaires jésuites portugais, qui sont donc en guerre contre les Hollandais, et Blackthorne, qui est l'allié des Hollandais. C'est donc un prêtre qui va servir au début de traducteur entre les Japonais et l'équipage. Mais ce prêtre est un ennemi de Jack Blackthorne, puisque pour les Portugais, les Anglais et Hollandais sont considérés comme des hérétiques. L'équipage se fait alors emprisonner, sauf le capitaine qui petit à petit va découvrir les traditions et les codes de la culture japonaise. Après quelques péripéties, il se rend à Osaka pour rencontrer Toranaga, un des 5 régents du Japon. Le pays sort de 600 ans de guerre civile, arrêté 25 ans plus tôt. Toranaga est un traître qui tourne comme une girouette, il est toujours du bon côté de celui des gagnants. Les jésuites portugais expliquent à Blackthorne qu'il y a de nouveau un risque de guerre civile à l'époque. Lors de sa rencontre avec Toranaga, Blackthorne explique que la Hollande et l'Angleterre sont alliés et qu'il vient au Japon pour faire du commerce. Il a accepté de prendre la tête de ce navire pour découvrir de nouvelles terres. Ensuite, après un court séjour en prison, il est libéré et va vivre chez Toranaga, qui le prend sous sa coupe. Ce dernier veut en apprendre le plus possible sur l'Occident et sur le pays de Blackthorne, l'Angleterre. En fait, avec Blackthorne, il va connaître le deuxième avis de ce qui se passe en Occident, vu que lui n'a jamais que le discours des jésuites portugais. Et il va se rendre compte petit à petit qu'il y a une autre puissance qui existe en Occident, dont il n'était pas du tout conscient. Au contact du Gaijin, qui signifie l'étranger, donc c'est Blackthorne, Toranaga apprend que l'Espagne et le Portugal ont divisé le monde en deux, les terres appartenant à l'Espagne et au Portugal. Et c'est le pape qui donne ses droits en échange de la diffusion de l'existence de Dieu. Toranaga se rend compte que c'est vraiment très stupide et ne comprend pas comment des puissances pareilles peuvent se permettre d'attribuer des terres qu'ils ne connaissent pas, qui sont à l'autre bout du monde. Et c'est ainsi qu'il va découvrir petit à petit que les jésuites portugais, en fait, pensent avoir le pouvoir, mais non pas du tout. Blackthorne va quitter le palais de Toranaga pour aller vivre en province, parce qu'il va être victime d'un attentat par un samouraï qui a été envoyé par les Portugais pour le tuer. Dans le village d'Anjiro, donc en province, il va apprendre petit à petit les usages et coutumes du Japon et à parler japonais avec Toranaga et Mariko, qui est la traductrice de Toranaga. Il apprend aussi en échange au japonais la culture occidentale. Et donc c'est ça toute l'histoire de la série, c'est l'apprentissage des traditions de l'autre culture. À Anjiro, Blackthorne devient Atamoto, c'est-à-dire confident personnel de la suite d'un seigneur. Et on lui donne pour cela une femme et c'est un grand honneur. Ensuite, il sera fait samouraï par Toranaga et va pouvoir disposer d'un village. Il y a moult péripéties, à la fin il récupère son bateau et son équipage, mais il apprend qu'il y a un traître parmi l'équipage. Mariko, dont il était tombé amoureux mais en même temps qui elle est mariée, va mourir. L'Erasme, son bateau, est incendié et Black Thor ne retournera jamais en Angleterre. Par contre, Toranaga est devenu le nouveau shogun et ne laissera jamais partir Gaijin, Black Thorn, du Japon. Une nouvelle guerre civile fera 40 000 morts.
Ça paraît très historique comme série.
C'est exactement très historique vu que tout est basé sur un fait réel. La série est tirée donc du roman de James Clavell, comme je l'ai dit. Ce fait réel, c'est l'histoire du pilote anglais William Adams, qui a réellement existé, et il fut reçu au château d'Osaka par le très puissant Tokugawa Ieyasu, qui donc dans la série n'est autre que Toranaga. Dans la réalité, Tokugawa Ieyasu est l'un des 5 régents du Japon qui allait devenir le dictateur militaire suprême, le shogun, parce que shogun signifie ça en fait, c'est un dictateur qui règne au nom de l'empereur sur les terres du Japon, et lui fonda une dynastie qui devait quand même durer 250 ans, donc la série se passe vraiment à un tournant de l'histoire japonaise. L'un des grands avantages de la série, c'est ça, c'est découvrir une histoire qui s'est réellement passée, l'histoire du Japon.
Le seigneur Toranaga souhaite que vous lui parliez de vous et de votre pays. Il désire que vous lui parliez également de vos navires et de vos armes. Et il veut savoir quelle route vous avez prise. Mon maître attend une réponse à chacune de ses questions.
Autrement dit, il veut que je lui apprenne tout ce que je sais.
Oui, c'est précisément ce que mon maître désire.
Je lui en parlerai volontiers, mais ça peut prendre du temps.
Mon maître a tout son temps.
Par où commencer ?
Par le commencement.
Voilà la carte du monde. La Terre est ronde comme une orange. Cette carte est comme son écorce qu'on aurait mise à plat. Le nord, le sud, l'est et l'ouest. Le Japon, Nihon, est ici. Mon pays est là.
Okatta. Koko ga Nihon de, soko ga sochi no kuni da na.
Ai. Là, c'est l'Afrique. Là, les deux Amériques, dont nous ne connaissons guère plus que les régions côtières.
Le seigneur Toranaga demande par où vous êtes passé pour arriver au Japon.
Par le détroit de Magellan, à la pointe sud de l'Amérique. Il porte le nom du navigateur portugais qu'il a découvert il y a 80 ans. Depuis lors, les Espagnols et les Portugais ont caché l'existence. Nous sommes les premiers à l'avoir emprunté. Vous ne traduisez pas ?
J'expliquerai tous ces détails au seigneur Toranaga lorsqu'il en exprimera le désir. En attendant, veuillez continuer.
Il y a 70 ans, les rois d'Espagne et du Portugal ont signé un traité qui divisait la possession du Nouveau Monde, du monde inexploré, en deux parts égales. Votre pays se trouvant dans la moitié portugaise, officiellement, il appartient au Portugal. Le seigneur Toranaga, vous, ses gens, sa citadelle, ses biens, tout appartient au Portugal.
Veuillez me pardonner, mais cela n'a pas de sens.
Peut-être, mais c'est vrai. Il existe des documents légaux qui donnent à chaque roi le droit de revendiquer toute terre non catholique et de substituer le catholicisme aux croyances existantes. Plusieurs pays d'Amérique ont déjà été pillés par les Espagnols et leurs trésors ramenés en Espagne. Le Portugal est devenu riche grâce à l'or et à l'argent du Brésil.
Si cela est vrai, de quelle façon les rois d'Espagne et du Portugal ont-ils pu s'arroger de tels droits ?
Ce n'est pas eux. C'est le pape qui leur a donné ces droits. Le vicaire du Christ sur terre en personne. En échange de la diffusion de la parole de Dieu.
Je ne crois pas que ce que vous dites soit vrai.
C'est pourtant la vérité, madame. Le pape Clément VII a ratifié le traité de Saragosse en l'an 1529, qui donne au Portugal le droit exclusif de régner sur votre pays. Et sur le Catay.
Non, Dieu.
Tono, totemo komite orimasu. Monseigneur souhaite que je lui explique ce que vous avez dit. Vous pouvez attendre là-bas.
En fait, on comprend qu'il y a des difficultés d'histoire à comprendre, mais qu'il y a aussi des difficultés au niveau de la culture. Finalement, ça nous montre la culture du Japon de l'époque.
Le but de cette série est très clair, c'est de tenter d'expliquer la culture japonaise aux Occidentaux. D'ailleurs, la diffusion de la série à la télévision a enclenché à ce moment-là un intérêt des Américains pour l'histoire et la culture japonaise. D'ailleurs, selon l'un des scénaristes, s'il y a autant de restaurants japonais actuellement aux États-Unis, c'est aussi grâce à sa série. Bon, ça on n'en est pas sûr, on n'a pas fait d'études de marché, mais c'est sa théorie. On découvre à travers la série une nouvelle culture, c'est franchement l'intérêt principal de la série. J'ai pas adoré cette série, mais je peux au moins dire que j'ai appris des choses, c'est déjà ça. On découvre une nouvelle culture, un nouveau pays et aussi une époque qu'on connaît mal, voire pas du tout. On voit bien qu'il y a un manque de compréhension à cause du choc des cultures et du choc des religions tout le temps entre les protagonistes de la série. Et on apprend beaucoup de choses sur la culture japonaise, notamment sur la philosophie des samouraïs. On apprend par exemple que samouraï veut dire en fait servir. Ils ont le droit de tuer qui ils veulent tant que la personne n'est pas elle-même samouraï.
Tu disais tantôt que les samouraïs recevaient un village, ça veut dire que ce sont des seigneurs locaux aussi.
Oui, c'est des seigneurs locaux, exactement. Mais c'est des seigneurs locaux qui font toujours référence à un plus grand seigneur. Hein. C'est des guerriers aussi. Ils dépendent toujours de quelqu'un. Donc on peut les envoyer en mission pour tuer des gens, etc. Et dans ces cas-là, on a vu plusieurs fois dans la série des samouraïs se faire harakiri. Cette méthode qui consiste à s'enfoncer un sabre dans le ventre. Et pour eux, c'est une sorte d'honneur de se donner la mort ainsi. On le ressent vraiment, il y a une grande notion de respect pour ça. C'est très gratifiant pour un samouraï de se donner la mort. S'il a échoué, c'est logique. Et donc, il y a plein de notions comme ça qu'on ne connaît pas vraiment chez nous et qui là-bas sont des notions vraiment très importantes. On apprend également que seuls les samouraïs ont des noms et des prénoms. Les autres personnes portent le nom de leur métier. Donc on va appeler quelqu'un pêcheur ou menuisier. Tout ça en japonais, bien sûr, mais ils portent le nom de leur métier. Alors, il y a aussi tout l'univers des marins qui est traité dans cette série, vu que Black Thorn est pilote. Il va rencontrer un autre pilote portugais. Donc, normalement, ils sont opposés. Mais on sent qu'il y a toujours un lien qui est fait par leur métier. Et il n'y a rien à faire. Il y a un grand respect entre eux. Aux yeux des autres, ils sont vraiment reconnus comme des scientifiques. Et Toranaga prend vraiment Black Thorn pour quelqu'un qui a un grand savoir, d'où l'intérêt de le prendre sous sa coupe. Alors un bon exemple des différences culturelles est montré lors de la rencontre entre Toranaga et Black Thorn. Black Thorn possède des lettres de marque, qui sont en fait des attestations du gouvernement hollandais donnant l'autorisation d'attaquer l'ennemi. Mais pour Black Thorn, attaquer l'ennemi, c'est seulement si lui-même est attaqué, donc il ne le fera qu'en riposte. Mais au Japon, la règle est différente. Tout trouble de l'ordre public, tout méfait est puni par la peine de mort. Automatiquement, il n'y a pas de peine d'emprisonnement. Si vous êtes emprisonné, c'est que dans les 15 jours, c'est bon, vous êtes mort. Les étrangers ne sont tolérés sur les terres que parce que les Japonais le veulent bien. Donc la loi est sans équivoque, la mort est la seule sentence. Et on sent bien une opposition entre l'argent, qui est une coutume occidentale. Par exemple, on rétribue toujours un capitaine et son équipage lorsqu'ils font du commerce, ils reçoivent une partie des bénéfices. Par contre, c'est une coutume pas du tout orientale. Toranaga ne comprend pas ce genre de choses. Faire du commerce et tout ça est un devoir et ils ont une conception totalement différente de choses pareilles. Pour les Japonais, Black Thorn et son équipage sont des mercenaires et des véritables pirates. Par contre, en Occident, la notion de pirate, c'est un hors-la-loi qui pille et viole les gens. Ils ne parlent pas le même langage, quoi. Ils utilisent les mêmes mots pour des choses complètement différentes. Il y a aussi une autre question, c'est que la Hollande est en rébellion contre son ancien seigneur, le Portugal. Mais pour le Japon, c'est incompréhensible qu'on puisse se rebeller contre son seigneur. On lui doit devoir, loyauté. Une autre notion importante, c'est le respect. Le fait de ne pas saluer un homme important peut entraîner la mort, comme je l'ai dit. Et l'offense est un autre concept en Orient, comme la loyauté, le devoir. Je me répète, c'est toujours pareil. Grâce à Mariko, la traductrice de Toranaga, Black Thorn va découvrir toutes les coutumes des relations intimes entre hommes et femmes. Grâce à elle, il va quand même commettre moins de fautes qu'il ne pourrait en faire. Elle lui apprend par exemple qu'on ne convoite pas la femme d'un Japonais, sous peine de voir cette femme être tuée par ordre de son mari, de son père ou de son frère. Donc on ne va pas tuer vraiment l'homme qui convoite la femme, mais bien la femme qui manque de respect envers sa famille. Mais convoiter une femme signifie simplement au Japon qu'une femme se retrouve seule avec un homme dans une pièce. Mais à côté de ça, il n'y a aucune pudeur. Un homme et une femme peuvent prendre leur bain dans la même baignoire. C'est normal, tant qu'il y a une autre personne, s'il y a une servante dans la pièce, c'est tout à fait normal, il n'y a aucun souci. Mais être seule, ça, c'est puni par la loi. Elle commet un impair, c'est assez cocasse, lorsqu'elle lui propose la compagnie de dame de compagnie pour des relations intimes. Donc il s'offusque complètement de ses propositions, il ne comprend pas comment on peut lui proposer des femmes ainsi. Mais au Japon, c'est une pratique tout à fait courante, car pour eux, les relations sexuelles font partie d'une bonne santé. Ça se déroule juste après son emprisonnement, donc Black Thorn a besoin de se rétablir. Et pour les Japonais, cela passe inévitablement par une bonne santé sexuelle.
Je suis heureuse de vous annoncer que Usagi Fujiko vous est donnée comme compagne.
Quoi ?
Le seigneur Toranaga l'a sollicité pour être votre compagne. Et elle a dit qu'elle acceptait et qu'elle en serait très honorée.
Enfin, je n'ai pas dit oui.
Mais Anjin-san, vous ne sauriez refuser. Vous devez considérer cette offrande comme un grand honneur. Dame Fujiko est une jeune veuve. Elle n'a que 19 ans. Mais venant de perdre son époux et son fils, elle est rongée par le remords.
Et comment a-t-elle perdu son mari et son fils?
Ils ont été exécutés. Son époux a eu l'audace de menacer la vie du seigneur Toranaga.
Le seigneur Toranaga a mis à mort un enfant dont le père avait commis un délit.
Oui, nos coutumes sont différentes de vos coutumes. Sachez que, d'après la loi, nous appartenons à notre suzerain. D'après la loi, un père peut disposer de la vie de sa femme, de ses enfants et de sa concubine.
Votre époux, par exemple, peut vous faire exécuter?
Oui, il en a le droit. Si vous acceptez Dame Fujiko, elle s'occupera de votre maison et des serviteurs. Ou, si vous choisissez d'ignorer sa présence, faites comme si elle n'existait pas. Mais permettez-lui de rester. Acceptez-la et puis, si elle vous offense, vous aurez le droit de la faire exécuter.
Vous n'avez que cette solution-là. Tuer.
Non, Anjin-san, parce que la vie est identique à la mort. Voyez-vous, vous pourriez rendre à Fujiko un service bien plus grand en lui ôtant la vie.
Encore une fois, je suis piégé. Si je la rejette, elle meurt. Si je n'apprends pas votre langue, le village est massacré. Si je ne fais pas ce que vous voulez, la mort sera toujours le lot des innocents. Il n'y a pas d'issue.
Anjin-san, oubliez le village. Des milliers d'événements peuvent survenir avant que les 6 mois s'écoulent. Vous devez laisser le karma s'accomplir. Aujourd'hui, vous êtes ici. Et vous ne pouvez rien faire qui puisse changer cela. Demain est encore inexistant. Aujourd'hui existe. Il n'y a rien d'autre que ce moment. Il n'y a rien d'autre. Rien.
Alors, on a annoncé la couleur au début. Tu n'as pas vraiment apprécié cette série, tout en lui trouvant des points quand même positifs.
Oui.
Finalement, qu'est-ce que tu n'as pas aimé dans cette série?
Le problème principal de la série, c'est quand même la lenteur. Bon, d'accord, c'est une série des années 80, c'est plus le même rythme qu'aujourd'hui. Il y a beaucoup plus de silence, mais quand même, quoi, c'est un peu difficile à... Il y a vraiment des moments où on a envie de s'endormir. Même les moments d'action sont très mous, en fait. Même quand il se bat, c'est très gentil.
C'est pas Tom Cruise dans Le Dernier Samouraï?
Pas du tout, on est loin de là. Non, parce qu'il n'y a même pas de jeu avec les sabres ou quoi que ce soit, enfin des trucs un peu samouraï qui font un peu action. Non, c'est on se donne un coup de poing ou l'autre, on atterrit par terre et puis voilà, on est jeté en prison. C'est lent, quoi. Par exemple, il y a des longs moments où on le voit marcher et suivre des Japonais sur de la musique pour aller d'un endroit à un autre. Donc il est escorté, vu que c'est un prisonnier. Et donc ça, c'est très très lent, ça dure, on n'en voit pas la fin. On se dit, mais bon, quand est-ce qu'ils arrivent quelque part? Puis il y a beaucoup de plans de paysages aussi et de maisons, comme le palais d'Osaka, ce qui donne également une impression de lenteur et de lourdeur en fait. C'est vraiment lourd. On a l'impression parfois que l'histoire stagne. Je comprends qu'ils nous montrent le palais d'Osaka pour nous faire comprendre qu'on y est. C'est pour nous montrer où on est maintenant.
Ça paraît logique, effectivement.
Ça paraît logique, mais une prise de vue qui dure plusieurs secondes sur le palais d'Osaka, complètement fixe, c'est un peu lent, quoi. Donc vraiment, ça alourdit la série. Tout ce qu'on apprend sur le plan historique, il faut être patient pour le voir venir. On comprend tout, mais après, je sais pas moi, 3 quarts d'heure, on comprend seulement où on en est. Donc vraiment, au début, on a du mal à s'y retrouver. Déjà entre les personnages. Qui est qui? Quelle est la religion de qui? Déjà au début, les Japonais sont tous les mêmes. On sait pas qui est le chef de qui, à qui on doit le respect ou non. C'est très difficile. On s'y retrouve pas. Donc au début, moi, ce que j'ai fait, simplement, c'est que j'ai vu les personnages et je me suis dit dans ma tête, tiens, lui est méchant, lui est gentil, lui est contre Black Thorn, lui pas... Et c'est comme ça que je m'y suis retrouvée un petit peu. Et c'est vrai qu'au fil du temps, on s'habitue. Les personnages diminuent certainement. Il n'y en a plus que 3 récurrents et quelques-uns qui reviennent. Donc, on s'en sort, mais c'est quand même pas vraiment facile. Surtout qu'on ne nous explique pas qui est qui. Parce qu'il faut savoir que quand les Japonais discutent entre eux en japonais, ce n'est pas sous-titré. C'est pour moi un des gros soucis de la série. Ça m'a vraiment ennuyée. Mais ça, c'était un choix personnel du scénariste Perkovici. C'est très très surprenant au départ parce qu'on ne s'y attend pas.
Et c'est récurrent, c'est un phénomène qui prend beaucoup de place.
Tout le temps, du début à la fin. Et on se dit, bon, c'est peut-être qu'au début, parce qu'à la fin, Black Thorn, on se dit, bon, après 3-4 ans quand même passé au Japon, il va finir par parler japonais. Donc nous sous-titrer ou qui répète un peu les phrases ou je sais pas, nous faire comprendre ce qui se passe. Ben non, même à la fin, il y a un Japonais qui commence à parler avant de faire son harakiri de son hôte funèbre. Il nous l'a fait tout en japonais. Ils discutent avec un autre avant de se donner la mort, mais ça prend un temps fou, quoi. Je sais pas en combien de minutes ça prend, mais à la fin, on nous le résume en 2 phrases par Black Thorn qui se dit « Ah voilà, il a fait son ode funèbre, il a parlé d'un truc ou l'autre », mais Vraiment, c'est du temps perdu, je trouve, parce que ça ennuie la personne qui regarde. Ça ralentit encore tout.
Enfin, ça doit être chouette pour les Japonais, mais...
Ah oui, c'est très bien pour ceux qui parlent japonais, mais je ne suis pas parfaite bilingue, désolée. Je trouve qu'au moins, ils pourraient mettre l'option sur le DVD, par exemple. Ça, il n'y a même pas moyen. J'ai cherché, on ne sait pas. Il y a aussi des petits détails techniques qui font que ce n'est pas génial. Par exemple, les Japonais ont le crâne rasé, mais on voit très fort que les crânes sont faux. Donc, il y a plein de petits détails qui font que bah, ça fait années 80, ça fait... mal fait, enfin pas mal fait, mais cheap, ouais, un peu. Je crois qu'à l'époque, ça devait être sympa comme série, vraiment. Non, il y a des gens qui aimaient bien, et je comprends, parce que c'était novateur quand même. Mais aujourd'hui, non, ça a vraiment vieilli. C'est pas très très gai à regarder, sauf si on est passionné par le monde des samouraïs. Ça, je crois que c'est vraiment intéressant. Le côté historique, comme je l'ai dit, le côté culturel, c'est toutes des choses très bien. Mais j'ai eu du mal à terminer cette série, parce qu'il y a une lenteur évidente. Maintenant, les décors sont très bien faits. Ça, il faut le souligner quand même. Mais il y a aussi les effets spéciaux, quoi. Quand il y a un typhon en mer, on n'y croit pas du tout, ça c'est certain. C'est parce que ça a 20 ans d'âge, c'est certain aussi.
Plus que 20 ans, 25 ans
d'âge. 25 ans, oui.
Donc finalement, c'est une série qui souffre un peu du poids des années, mais aussi d'un sujet difficile, si je t'entends bien.
Oui, c'est un sujet difficile parce que c'est historique. C'est le côté historique qui est un peu difficile à cerner. Maintenant, le monde des samouraïs est très intéressant. C'est tout un univers qui s'ouvre à nous, même si moi, je n'aime pas. Ça, j'avoue que c'est très personnel. J'adore pas le monde des samouraïs, mais je me mets à la place de n'importe qui. C'est intéressant, c'est vrai. Mais le niveau historique est très ardu au départ. Et il faut beaucoup de temps pour comprendre un peu le jeu des Portugais, les Japonais où ils en sont, ce que Toranaga essaye de faire, prendre la place du shogun. C'est toutes des choses qui ont du mal à se mettre en place et qu'il faut énormément de temps. Et on n'a pas d'explication directe, en fait. Vu que même les Japonais entre eux ne nous apprennent rien, même s'ils discutent longuement, on ne découvre rien grâce à eux. Et ça, c'était un peu difficile. Oui.
Bah donc, la prochaine fois, ça veut dire qu'on fera rire d'un western pour se faire pardonner.
Merci, merci.
Merci pour ce dossier.
Retrouvez Aux frontières des séries sur le web. www.afds.tv.